Henri de Régnier, l'hésitation sentimentale. Ce fut le désir d'exercer mon discernement sur un nouvel objet qui me fit souhaiter d'être présenté à Madame de Morège. J'avais entendu parler d'elle par plusieurs de mes amis, et ils en parlaient si diversement que ces diverses frances d'appréciation avaient piqué ma curiosité. Leurs opinions ne s'accordaient que sur un seul point. Madame de Morège était charmante. Quelques autres faits demeuraient également hors de discussion. Ils établissaient que Madame de Morège vivait fort indépendante et assez retirée, qu'elle jouissait d'une certaine fortune, que son mari habitait Rome et ne venait que rarement à Paris, et qu'elle occupait rue Franklin un élégant entresol orné de meubles anciens et de bibelots au choix, parmi lesquels elle recevait volontiers quelques amis. La vente de Chevreau fut l'occasion où je la rencontrai. Je lui demandai la permission de me présenter chez elle, qu'elle m'accorda. J'y retournai plusieurs fois. Mais après un certain nombre de visites, je m'aperçus que non seulement j'étais amoureux de Madame de Morège, mais que je l'aimais éperdument. Oui, je l'aimais, et le sentiment que j'éprouvais pour elle m'occupait tout entier. Rien au monde n'existait plus pour moi que mon amour. Je n'avais jamais rien connu de pareil pour aucune femme. Je demeurais effrayé et stupéfait d'une si impérieuse nouveauté. Parfois, en allant chez Madame de Morège, ce que je faisais presque chaque jour, je me demandais ce qu'elle pouvait bien penser de mon assiduité à laquelle elle se prêtait d'ailleurs de bonne grâce. Ma présence lui devait paraître inexplicable, à moins qu'elle ne m'attribuât à mon désœuvrement et à mon oisiveté. En effet, bien que le visage de Madame de Morège, le timbre de sa voix, le mouvement de son corps me causassent un ravissement profond, mais jamais je ne m'étais encore parvenu à ne rien lui laisser entendre du plaisir et de l'émotion que je ressentais à vivre auprès d'elle. Jamais je n'avais su lui adresser aucun de ces compliments que un homme élevé, bien élevé, doit à une jolie femme. Aussi pouvait-elle me croire complètement insensible à sa grâce et à sa beauté, car il me paraissait à plus forte raison impossible qu'elle eût pu deviner le secret trop bien sacré et gardé de mon amour. Et par une singularité particulière et qui s'ajoutait à celle de ma situation, le sentiment passionné que je nourrissais pour Madame de Morège ne me rendait ni distrait, ni stupide, ni irritable. Madame de Morège et moi avions de longues conversations sur toutes sortes de sujets. Il m'arrivait même, en ces causeries, de faire preuve d'esprit, de finesse et de gaieté. Je n'avais rien de l'ahurissement maladroit qui signale les amoureux. Mon infirmité, à moi, était autre. Elle consistait simplement dans l'impossibilité d'exprimer mon amour. Incapable de faire comprendre à Madame de Morège combien j'étais touché des agréments de sa personne, J'étais bien plus encore de lui avouer le désir d'en goûter plus intimement le charme et de lui dire l'impression ardente et profonde qu'elle avait faite sur moi en amour et sur mon cœur. Si donc l'aveu le plus respectueux et le plus tendre ne semblait une audace au-dessus de mes formes, il allait de soi que l'idée ne manifestait jamais autrement que par des paroles les plus détournées et les plus vagues l'amour que j'éprouvais. Il ne me met même pas un bon esprit. Ou plutôt, il m'y venait parfois que comme une velléité dont je sentais aussitôt ce qu'elle a fait d'insensé et d'impraticable. Oh, j'étais loin de mes théories favorites sur l'opportunité qu'il y a quelquefois à entreprendre avec les femmes en choisissant le moment grâce propice à ces sortes de démonstrations. Et cependant, Madame de Morège n'était point de ces personnes hautaines et distantes dont l'abord et les façons imposent la retenue et la réserve. Elle n'était ni froide, ni amère, mais au contraire, toute grâce et toute douceur. Ses manières simples et faciles eussent dû rendre aisées les explications les plus délicates, et pourtant, à la pensée de lui réserver enfin lui parfum de l'état de mon cœur, je me sentais aussi d'une telle appréhension que j'en défaillais d'avance. Oui, voilà où j'en étais avec Madame de Morège. Néanmoins, je n'imaginais pas que je fusse résigné à mon rôle d'amant muet. J'en souffrais cruellement. Mon amour ne s'accommodait nullement d'être sans espoir. Je me reprochais ma lâcheté, d'autant plus que je l'avais parfaitement que rien en soi-même ne me la ferait surmonter. Ma seule chance d'en venir à bout était quelques circonstances imprévues et prodigieuses qui n'avaient aucune raison pour se produire et je n'étais incapable de provoquer. D'autre part, je ne pouvais supposer que Madame de Morège se chargeât d'une initiative que rien ne me donnait lieu d'attendre d'elle. Restait donc quelque intervention mystérieuse du hasard. Mais où se pourrait-elle bien manifester? Cette question me torturait et m'affolait. À défaut du reste, j'en étais venu à espérer dans les choses qui entouraient Madame de Morège. Sa présence me les rendait animées. N'en serait-il pas une qui lui parlerait de moi? Le fauteuil sur lequel je m'asseyais auprès d'elle ne me jetterait-il donc pas à ses pieds de toute la force de ses bras magiques? Les fleurs de la tenture ne quitteraient-elles point l'étoffe pour former un bouquet qui, de mes mains, irait porter aux siennes l'aveu de mon tourment? En ces incertitudes et en ces chimères, le temps passait. Plusieurs fois, je voulus fuir. Tout ce que je pus faire fut de rester. Une fois, 3 jours, sans paraître rue Franklin. Le quatrième, je sonnai à la porte. Madame de Morège était en voyage. Je fus pris d'un saisissement. Partie, elle ne reviendrait pas. Son mari l'avait sans doute rappelée à Rome. C'était fini. Mais le domestique me rassura. Madame de Morège était allée à Nantes voir un objet d'art qu'un antiquaire lui proposait. Elle serait de retour le lendemain. Je respirais. Le lendemain, à l'heure habituelle, j'étais chez Madame de Morège. Hélas, elle ne serait pas plus mon angoisse de la veille qu'elle ne serait mon amour. Et quel courage, sortilège, de quel sortilège était la proie qui me réduisait à l'inexplicable et douloureux silence que je me consumais. Oh, le cœur battant, la bouche cousue. Où était-il passé en moi? Mais que s'était-il passé en moi? Ah, oh, ce n'était pas mes audaces de jeunesse que je regrettais. Ce que j'enviais, c'était l'humble pouvoir d'exprimer à celle que j'aimais le secret de mes pensées. C'est à quoi je réfléchissais dans le salon déjà sombre où j'attendais Madame de Morège. Comme cette demi-obscurité me rendait l'attente plus pénible, je me levais, poussais un bouton électrique et regardais autour de moi. Soudain, mon attention fut attirée par un objet que je ne connaissais pas. C'était, posé sur le marbre d'une console, une figure de faune en terre cuite. Ah, sans doute était-ce lui qui avait provoqué le voyage de Madame de Morège à Nantes, d'où elle venait de le rapporter de chez l'antiquaire. Curieusement, j'examinais le nouveau venu. Le petit dieu dansait. Son corps, modelé dans la terre sanguine, se cambrait, gai, brutal, élégant, quoique presque trapu en sa force musculeuse. Sa face camuse, à la bouche large, aux yeux obliques, aux oreilles pointues, riait cyniquement. Ardente et vif, il dansait au centre d'une grappe de raisin à son poing. Et l'un des sabots de ses deux jambes verte piétinait sans que l'autre, tandis que l'autre levait dans une gambade sa corne fourchue. Ah, le rude et joyeux petit dieu, rustique et sensuel, le sang qui rougissait ses membres ne devait porter dans sa tête que des pensées simples, chaudes et brusques. Et comme ses lèvres étaient faites pour le baiser, et ses bras pour l'étreinte, comme ses jambes devaient le porter pour qu'il appelait son plaisir. Ah, que ne me communiquait-elle bien un peu sa force et de son ardeur! Et je m'inclinais devant lui comme pour le supplier. Tout à coup, le bruit de la porte qui s'ouvrit me fit sursauter et brusquement, je me heurtai le front au sabot levé de l'égypan. Oh, le choc fut si imprévu, je m'appuyai à la console et restai un moment étourdi. Une chaleur subite me parcourait tout le corps, en même temps qu'une bouffée de sang m'empourprait le visage. Mes oreilles bourdonnaient. Oh, derrière moi, je croyais entendre le souffle haletant du faunin dont les sabots frappaient le marbre comme pour prendre son élan. Ma vue se troublait. Madame de Morège avait refermé la porte. Elle s'avançait vers moi. voyais son visage souriant et doux, tandis qu'à travers sa robe devenue miraculeusement transparente, il me semblait voir aussi son corps souple, son corps charmant, son corps nu qui venait à moi et pour lequel j'avais maintenant les bras hardis et des mains audacieuses. Avouez, Paul, me disait quelquefois Madame de Morège, en me montrant le faune de terre cuite. Avouez que c'est lui qui vous a poussé par les épaules et qui a éteint la lumière. Et nous regardions en riant le petit Sylvain, d'un air étonnant nerveux, dont la mystérieuse intervention avait lui dans l'ombre et avait uni nos lèvres ardentes et silencieuses.